bienvenue dans la jasette numéro 28. Aujourd'hui, évidemment, il va y avoir une bonne histoire, mais avant tout, j'ai décidé de te faire mon top 10 de mes films préférés, mes incontournables du 7e art. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, c'est un exercice qui me prend un certain temps à faire. C'est difficile de mettre 10 films, tu sais, puis j'ai essayé de te faire un top 10 là, de 10 jusqu'à 1 et de définir mon numéro 1. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a été un exercice beaucoup plus difficile que je le pensais, puis de voir les années dans lesquelles sont mes films préférés, c'est drôle aussi, vous allez voir là. Donc on commence tout de suite, gang. Puis aussi, j'ai décidé de faire ça peut-être pour vous donner des idées quoi regarder comme film. Ça fait 2 mois, là, la pandémie, fait que des fois, on sait plus quoi écouter, tu sais. Mon 10e, c'est un film français qui s'intitule « Les enfants du marais ». Bon, ça, c'est paru en... c'est sorti en 1999. C'est une comédie dramatique. Les acteurs principaux là-dedans, évidemment, il y a Jacques Villeret, que tu as pu voir dans La soupe aux choux avec Louis de Funès, puis plusieurs autres films. Et puis, l'autre acteur principal, c'est Michel Serrault, le grand Michel Serrault, que tu as vu dans des centaines de films. Le film est tiré, c'est une adaptation d'un roman de Georges Monferrot qui a été publié en 1958. Bon, j'aime beaucoup le... Ce que j'aime particulièrement des Enfants du Marais, c'est... Ben, premièrement, c'est un feel-good movie. Il n'y en a pas tant que ça, des très bons feel-good movies. C'est une comédie dramatique, oui. L'humour est... C'est de l'humour fin. C'est... j'aime bien ça. Ben, l'histoire se déroule en 1932, entre le 30 avril et le 15 décembre. C'est là qu'on... C'est là que se passe l'action. J'ai oublié de dire aussi que le film dure 115 minutes. Jacques Villeret là-dedans, le nom de son personnage s'appelle Henri Pignol. Tu te souviendras pour ceux qui l'ont vu. Son surnom, c'est Henri Pignol dit Riton. Julie Marbeuf joue la femme de Riton qui s'appelle Émilie. Jacques Gablin joue Garris. Michel Serrault joue Hyacinthe Richard, dit Pépé la Rainette. Lui qui est riche maintenant, mais qui vient des Marais, qui est patron des fonderies Richard. Mais lui, il vient de ce coin-là. Bon. L'histoire, c'est deux amis, c'est Riton, Villeray, qui vit depuis toujours dans les Marais. Aujourd'hui, avec sa seconde femme, la première est partie il y a 10 ans avec ses 3 enfants. Il vit là avec ses 3 enfants. Garris s'est installé là par hasard après avoir été démobilisé en 1919. C'est un ancien soldat. Le premier, Riton, est maladroit et fainéant. Et qu'il est fainéant. Et le deuxième, le militaire, est débrouillard et dynamique, évidemment. Il y a un attachement très particulier entre les deux gars. Puis ça, c'est beau à voir. Puis autour d'eux, le c'est sûr qu'eux, ils vivent une vie... C'est des gens simples. C'est la simplicité volontaire avant que le mot existe. Puis les gens autour qui ont des belles maisons, puis ont tendance à les envier. Mais on dit que c'est à cause du marais, mais moi, je pense que c'est plus le... Tout ce qui entoure ça, tu sais. Tu sais, il y a, comme je te disais, Michel Serrault qui joue Pépé le Ratin. Lui, c'est un enfant du marais, analphabète, mais qui est devenu riche avec le temps, tu sais. Et puis, bon, ben, à la longue, avec les années, ça se passe dans les années 30, mais avec les années, le marais. A asséché, il n'existe plus, tu sais, mais on compte cette partie-là du marais, tu sais. Et comme je te dis, c'est un feel-good movie. c'est vraiment un film, moi, qui, de mémoire, je l'ai vu deux fois. Je suis le genre de personne qui peut regarder un film deux, trois fois si je l'ai bien aimé. Ce film-là, c'est presque 2 heures, c'est 115 minutes. La prestation des acteurs dans ce film-là est magistrale. La réalisation aussi, d'ailleurs. Le marais est à faire rêver. Moi, évidemment, ben, je le mets dans... Il faisait ma cote dans le top 10. Est-ce que j'aurais pu le placer plus bas? Je crois que oui, mais quand tu vas voir les films que j'ai nommés après, ça aurait été difficile de le placer plus bas. Je pense que ça demeure... moi, c'est un film qui me rend nostalgique à plusieurs niveaux, là, à plusieurs niveaux. Donc, position numéro 10, Les Enfants du Marais. On va aller à la position numéro 9, qui est un film de Stanley Kubrick, qui est sorti en 1987, qui s'intitule Full Metal Jacket. Là, on s'en va vraiment ailleurs. C'est un drame de guerre. Qui dure 116 minutes, presque 2 heures aussi. Ça serait inspiré du roman de Short Timer de Gustav Asford. Dans les grands films sur le Vietnam, il y avait eu, rappelle-toi, en 78, Voyage au bout de l'enfer. En 79, il y avait eu Apocalypse Now. En 86, il y avait eu Platoon, qui avait déjà traité du sujet. Puis Kubrick est arrivé après avec sa version. Puis, sais-tu quoi? Je pourrais pas juger d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, parce que, moi, te le dis, je l'ai pas vu. Je voulais le voir avant de faire mon top 10. J'ai pas eu le temps, puis le film est 3 heures. Tu sais, mais c'est le prochain film que je regarde, c'est clair, puis probablement que je vais te revenir en disant « Ah, oh, j'enlève un film, puis je le mets dans mon top 10 », tu sais. Mais pour l'instant, moi, sachant que moi, j'ai pas vu Apocalypse Now, pour l'instant, mon film sur le Vietnam que j'ai le plus apprécié, ben c'est évidemment Full Metal Jacket. Vous souvenez du gars qui voulait pas être là, puis qui s'est fait brainwasher, qui finit par se tirer dans la bouche, dans les toilettes. Il y a plein de choses dans ce film-là. L'ambiance, premièrement, on a l'impression d'être directement au cœur du Vietnam. On a l'impression d'être... dans l'action totalement, puis j'aime ça que le film décrit le parcours du personnage de l'armée dès son entrée au camp d'entraînement en Caroline du Sud, puis j'aime ça voir les nouvelles recrues aussi, comment ça fonctionne. Tu te souviens de Grosse Baleine, comme le sergent Hartman aussi, je me souviens plus du nom du comédien qu'il joue, mais c'est magistral. Les comédiens dans ce film-là sont splendides. J'ai aimé aussi les images par rapport au Vietnam. Ouais, les images, le montage, la musique qui était excellente aussi. C'est un grand travail de... évidemment, c'est pas un pied de céleri, là. Stanley Kubrick. Puis le film, à noter, il est interdit au moins de 12 ans en France. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était quoi la raison. À noter que Kubrick, évidemment, a réalisé, puis il y a un de ceux qui ont fait le scénario aussi, là. Évidemment, c'est à grosse production, il y a beaucoup de choses là-dedans. On a vu beaucoup dans ce film-là que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Façon de dire que l'homme n'est pas plus qu'un animal, puis on pouvait le voir dans ce film-là. Beaucoup de détresse, mais qui est très intéressant. Je sais pas ce que... faudrait que je me questionne là-dessus, moi. Qu'est-ce que je vais chercher dans ce genre de film-là? Moi, qui m'interpelle, que je trouve bien intéressant, puis c'est dans mon écriture aussi, tu sais, puis ça me questionne. Puis en pensant à Full Metal Jacket, ça me ramenait à ça aussi, tu sais. qu'est-ce que j'aime là-dedans, moi? Qu'est-ce que je vais chercher dans cette détresse-là, dans cette douleur-là? Parce qu'en quelque sorte, c'est comme un... Tu regardes le film, c'est une toute personnelle fin du monde pour ces gens-là. Tout le monde n'a pas vécu le Vietnam de la même façon. Là, on le voit de l'intérieur. Puis moi, j'ai mon impression à moi, je trouvais ça horrible, mais mon impression, c'est que ceux qui l'ont vécu pour le vrai sur le terrain, pas mal sûr que c'était pire que dans Full Metal Jacket. Je suis pas mal sûr de ça. Donc, pour un film pas facile à regarder, mais nécessaire, ça devient quasiment historique. Tu sais, moi, je pense que c'est un film nécessaire. Puis, si tu l'as pas vu, c'est sûr que je te conseille fortement de le voir, mais pas des journées où ce que tu files pas et que tu as un petit down, là, ça t'aidera pas. Donc, 9e position, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. On va sauter à la 8e position. Ah ben là, par exemple, ma 8e position, c'est The Joker. Le Joker qui est sorti en 2019, qui est un trailer psychologique, production américaine, produit par le DC Film, d'une durée de 122 minutes. Évidemment, dans le film, il y a Joaquin Phoenix, Robert De Niro, pour nommer les gros noms. Il y a plein d'autres acteurs. Joaquin Phoenix, évidemment, a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Ils n'ont pas gagné le meilleur film aux Oscars. C'est le film coréen qui a gagné Parasite. D'ailleurs, que j'ai pas vu. Donc, j'ai mis le Joker 8e. J'ai hésité à le mettre plus bas. Mais bon, il finit sa place à 8e. La prestation de Joaquin Phoenix dans ce film-là est magistrale. Probablement une des meilleures prestations de comédien que j'ai vues dans un film. Avec, si je me rappelle bien, Kathy Bates qui jouait dans Misery, rappelle-toi. Donc pour moi, la façon qu'il jouait son fou, son clown, c'était incroyable. Juste incroyable. D'ailleurs, c'est réalisé par Todd Phillips et c'est scénarisé par Todd Phillips en collaboration avec Scott Silver. Fait que ça, c'est très intéressant, tu sais. Puis ça a été un succès au box-office, plus d'un milliard de dollars. C'est sûr qu'il y a eu des critiques élogieuses. Mais on se souvient qu'il y avait eu une petite polémique aux États-Unis, peut-être au Canada aussi, disant que le Joker faisait l'apologie de la violence. En fait, c'est pas ça pantoute. Il n'y a pas d'apologie dans de la violence dans ce film-là. Et puis, c'est juste une... il fait juste une constatation de la chose. Le film, d'ailleurs, ça passe au début des années 80. Puis ça, je vais dire bravo à Todd Phillips et à sa gang. C'est merveilleux comment ils ont réussi à installer ça. On se sent vraiment au début des années 80, fin des années 70. On a ce feeling-là. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Ça demande... ça prend un sacré talent pour réussir à faire ça. Et puis moi, ça, ça me va toujours me fasciner. Ouais, c'est vraiment fascinant. À ce niveau-là, au niveau de la réalisation, puis le directeur photo, là, je ne l'ai pas dans mon listing, là, mais je pourrais te le dire plus tard, probablement. C'est incroyable. J'aime même la texture visuelle qu'on a donnée. C'est un peu sombre. J'aime beaucoup ça. Puis c'est sûr, je reviens sur Joaquin Phoenix. Le travail qu'il a fait d'acteur pour ce film-là est majeur. Et d'un niveau... C'est du génie. C'est juste ça. Je pense que beaucoup... Le film est bon, mais je pense que beaucoup repose sur les épaules de Joaquin Phoenix dans ce film-là. T'sais. Probablement que si c'est pas Joaquin Phoenix qui joue dans ce film-là, qui donne cette prestation-là, probablement que ce film-là fait pas mon top 8. Mais ceci étant dit, tu mets tout ensemble, ça demeure un excellent film que je conseille. Par contre, 16 ans et plus. En bas de 16 ans, il y a bien des choses là-dedans. Là. Pas que c'est si violent que ça, mais c'est lourd et c'est ça peut être mélangeant pour un enfant. T'sais. En bas de 16 ans, moi, je le conseille pas. Après 16 ans, bon, peut-être qu'on peut être capable de réfléchir et de comprendre certaines choses. Ça, c'est mon humble opinion. C'est vrai qu'il y a eu une polémique avec ce film-là, mais ça, c'est drôle parce qu'il y avait eu la même polémique avec Orange Mécanique, puis c'était en 71. Fait que plus ça change, plus c'est pareil, tu sais, si tu veux mon avis. Donc, c'était le Joker que je place 8e. Là, on va aller à la 7e position. Attache ta tuque. La 7e position, c'est Misery, qui est un trailer de 107 minutes, qui est paru en 1990, qui met comme principaux acteurs, en vedette, James Cahan, évidemment, qui fait l'auteur, et Kathy Bates, qui fait la fan. Comment je pourrais te dire ça, donc? J'ai pas le mot, moi, en français, mais c'est la stalker. Celle qui suit toujours son idole, puis bon. Je te disais, 107 minutes. Réalisé par Rob Reiner, puis c'est évidemment l'adaptation d'un roman qui s'appelait Misery, qui a été écrit par Stephen King. Stephen King a plein de ses livres qui sont devenus des adaptations au cinéma. Et celui-là, c'en est un incroyable. Là, tu te souviendras, James Cullen là-dedans s'appelle Paul Sheldon. Il est le créateur de la saga Misery. Puis dans sa série de romans L'eau de rose, pour son dernier roman, il a décidé de faire mourir son personnage qui lui a apporté plein de succès avec cette saga-là, afin de passer à d'autres choses. Il veut se concentrer sur des histoires plus sérieuses. Puis il se disloque, il y a un accident, il y a une jambe cassée, une épaule disloquée. Puis l'infirmière bienveillante. L'infirmière jouée par Kathy Bates, qui se nomme Annie, Paul, il pense que c'est une infirmière bienveillante et puis qui offre la chance de lire son dernier manuscrit. Mais elle n'est pas contente. Elle revient folle quand elle se rend compte que son héroïne, son personnage préféré, va mourir, meurt dans le dernier roman. Puis là, elle revient sur le top. Puis c'est là qu'elle dit à Paul qu'il est seul au monde, qu'il n'y a personne ici, puis s'ensuit un paquet de... c'est quasiment un huis clos, mais c'est intéressant comment que c'est tourné. Moi, j'ai bien, bien aimé ça. C'est un film à glacer le sang. Tout ça passe dans l'idée de... Puis je trouve ça bien intéressant. C'est bien monté. C'est bien joué, là. C'est main de maître. C'est le premier film de Kathy Bates. Kathy Bates, dans ce film-là, est incroyable. Elle fait peur. Elle donne des frissons. James Cahan aussi, dans ce film-là. James Cahan, c'est un acteur que j'ai toujours aimé, moi. Puis dans ce film-là, il joue low profile. Il joue très, très bien. Je cherchais... OK... Non. Non, c'est pas mal ça. Évidemment, à mon humble avis, c'est un grand classique du genre. Puis c'est un classique trailer, c'est un classique américain. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Maintenant, on va passer à la position numéro 6. Numéro 6, en français, ça s'intitule Le Pouilleux Millionnaire. En anglais, c'est Slumdog Millionaire. C'est réalisé par Danny Boyle, puis je te ferai remarquer que Danny Boyle a réalisé un autre bon film qui n'est pas dans ma liste, mais qui est excellent, qui s'appelle Yesterday, qui fait référence à un hindou qui vit en Angleterre, puis qu'il se rend compte que les Beatles n'ont jamais existé. Après une panne d'électricité, c'est passé quelque chose dans l'air, puis bon. Fait qu'il se met à jouer les tunes des Beatles. Fait que ça, c'est tellement... j'avais trouvé cette idée-là originale, puis c'est lui qui a réalisé ça, juste pour le référent. Donc, c'est ça, Slumdog Millionaire, les acteurs principaux, même, je t'y nommerai, là, c'est pas des gens connus. C'est, le film date de 2008 déjà, 120 minutes, production des Royaumes-Unis. Acteur principal, Dave Patel, Frida Pinto, Hani Kapoor, Irfan Khan, Rubina Halley. Bon, moi, pour être honnête, c'est tous des gens que je connais pas. Scénario, Simon Beaufoy. Adapté du premier roman de l'écrivain. Oh, ok, je savais pas ça. Ça, c'est adapté du premier roman de l'écrivain indien, Vika Swarup. Ça serait... Le titre porterait le nom de « Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire ». Ah. Quand même. De là, le pouilleux millionnaire, le Slumdog Millionaire. Ce film-là, c'est péripétie par-dessus péripétie. Je trouve ça original. J'aime ça parce que ça nous amène ailleurs. Oui, vraiment, j'ai été comme déstabilisé avec ce film-là. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. C'est triste. En même temps, c'est beau. Je peux pas dire que c'est un feel-good movie. Je peux pas dire ça. Mais en quelque part, il y a plein de choses là-dedans, moi, qui m'ont sorti de mes souliers. Puis si tu l'as pas vu, je te le conseille fortement, mais... Prends ton temps, puis donne-lui une chance. Faut être patient avec ce film-là. Puis, les œillères bien ouvertes, là. Tu sais, faut pas être fermé. On a vu là aussi... j'aimais la texture du film aussi. C'était bien intéressant, ça. Ça m'a jeté à terre. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ragé. On passe par toutes sortes d'émotions avec ce film-là. On est comme envahi, comme... cherche le bon mot, comme... comment je pourrais dire? Tu t'assis, puis quand t'embarques dans le film, t'es comme omnibulé. Ouais, c'est le bon mot que je voulais utiliser. Omnibulé, t'es emporté, là, dans un vortex. Puis y a rien d'autre qui existe. Puis j'aime ça quand un film réussit à me faire cet effet-là. J'avais vu ce film-là, je crois, au cinéma. Moi, je sais pas si je l'avais loué. Il me semble que je l'avais vu au cinéma. Parce que je n'avais entendu parler. Parce que à l'époque, quand il est sorti en 2008, ça a fait bien du bruit. Puis il était en nomination aux Oscars. Il a gagné 8 Oscars aussi, by the way. Un bon film. Je peux pas dire un beau film parce qu'il y a plein de choses là-dedans qui se passent qui sont tout à fait horribles. Mais du moins, je pense qu'il vaut la peine d'être vu. Puis ça parle d'une certaine réalité aussi que moi, que je connaissais sans connaître, que je... c'est-à-dire qu'on est au courant de ce qui se passe en Inde, mais oui et non, tu sais. Mais là, ça te le met en pleine face. C'est une belle claque d'en face. Puis, pour ça, merci. Puis, Danny Boyle, moi, s'avère quelqu'un, le réalisateur, s'avère quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire sa façon de faire des films. Je le trouve bien, bien original. Puis, comme je te dis, Slumdog Millionaire, c'était son premier. Puis, avec Yesterday, il me prouve que c'est pas un... c'est pas une chance, son premier film. Tu sais, des fois, tu peux faire un bon film, puis ça finit là. Mais non, il est là pour rester, Danny Boyle. Fait qu'à chaque fois que je vais voir son nom, c'est sûr que je vais être interpellé, puis je vais vouloir faire ce qu'il fait. Hey gang, en ces temps de pandémie, je t'étudie que si t'es tanné des épiceries, tu trouves ça lourd, tu veux éviter des épiceries, ben moi, j'ai la solution pour toi. T'appelles mon chum, Roger Yangang, de Chef Maison. Lui, il livre, en plus de te faire de la bonne bouffe, au 438 872-9500. Si tu veux éviter les épiceries, la solution, c'est Chef Maison. Puis surtout, oublie pas, le familial pour 4 personnes, 5 jours, 75$. Qui dit mieux? Bon, maintenant, on est rendu au cinquième de mes incontournables du 7e art. Cinquième position, c'est le feel-good movie des feel-good movies. C'est Forrest Gump. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. 142 minutes de pur plaisir et bonheur. C'est une comédie dramatique qui est sortie, imagine-toi donc, en 1994 et qui met en vedette le grand Tom Hanks. Tom Hanks qui est un des plus grands acteurs de notre génération. Réalisé par Robert Zemeckis et scénarisé par Eric Roth de The Main Mate. Évidemment, le film relate les mouvements, l'histoire mouvementée des États-Unis entre les années 50 et les années 80. Puis à travers ça, ben, on voit un homme simple d'esprit, Forrest Gump, qui fait partie de toutes ces histoires-là. Le film est, comme je te disais au préalable, est un feel-good movie, évidemment. Fait du bien à l'âme, fait du bien au cœur. Tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas réfléchir. Moi, c'est ce que j'aime de ce genre de film-là. Mais c'est un film particulier dans le sens que tu... Il n'y en a pas deux pareils. Tom Hanks, dans ce film-là, il est tout simplement magistral. Ça fait drôle de dire, comme simple d'esprit, là, il est magistral. Puis l'idée en arrière du scénario, puis de Eric Roth, c'est simple comme idée, mais c'est tellement bien ficelé, ça aurait pu être... vraiment cheesy comme film, là. Mais ça ne l'est pas. Puis il y a des quotes, il y a des citations qui ont sorti de ce film-là qui sont restées, dont une, tu te souviendras, « Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. » La vie, si je peux la traduire en français, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais ce que tu vas avoir. Tu sais, une boîte de chocolat mélangée, mettons que tu vas chez le Ressacor ou whatever. Donc, c'est ça. Mais j'aime plus le dire en anglais. Ouais. Je trouve que c'est le rhythm de la phrase est belle aussi. Les mots ont un certain rythme et une certaine musique. Hein? Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Excuse-moi, je suis en train de prendre un zip de mon excellent latte. Bon, j'ai pas de machine à café, moi, comme Yann Thériault, là. J'ai pas une machine à 4000, là. Moi, j'ai une Tassimo à 100$, là, mais ça fait le job. C'est mieux que du café instantané ou ce genre de patente-là, au moins. Donc, pour revenir à Forrest Gump, j'aime aussi la trame, j'aime la narration. J'aime ça, les films narratifs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Je pense que c'est mes films préférés. Puis j'aime beaucoup quand on nous amène à travers l'histoire. Puis de ce côté-là, Forrest Gump, on le fait beaucoup dans ce film-là. Puis je trouve que même pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un film à revoir, là. Parce qu'il y a plein de choses là-dedans, là. C'est historique, c'est géographique. Il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Qui peuvent être bien, bien intéressants, si bien expliqués, évidemment. Donc, au cinquième rang, avec un grand sourire, Forrest Gump. On saute maintenant au numéro 4. Là, on s'en va totalement vers d'autres choses. C'est Goodfellow. La version française, on disait Les Affranchis. Dirigé par Martin Scorsese. Évidemment, les acteurs connus dans ce film-là, ben là, il y en a un paquet. Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino, Le film est sorti en 1990. C'est d'une durée de 145 minutes. Il n'a pas fait tant d'argent que ça au box-office. T'sais, il avait un budget de 25 millions. Il a fait 46,8. Mais moi, j'ai adoré ce film-là qui est une... T'as une minute, je suis en train de lire. Non-fiction produced by, excuse-moi, distribué. Ok, c'est une adaptation du non-fiction book Wise Guy de 1985. Ouais. Dans le fond, le film, la c'est encore une narration, puis moi j'aime bien ça. Là, ça se passe de 1955 à 1980. On voit la montée, la descente de Henry Hill à travers la mafia. Lui, ses amis et la famille, donc on assiste à ça, tu sais, de comment eux autres fonctionnent. Puis ça te donne une maudite bonne idée de comment que ça fonctionne. Évidemment, je te l'annonce, là, ça c'est mon quatrième, ok? Y a plein de films que j'ai vus de Robert De Niro que j'aurais pu mettre dans ma liste. Taxi Driver, pour te donner un exemple, ok? Je l'ai pas mis, tu sais. Puis dans ma liste, il n'y a pas Godfather. Oui, je le sais, tous ceux qui ont étudié en cinéma vont mettre Godfather dans les trois premiers, probablement, avec Citizen Kane. Bon, moi, j'ai décidé d'y aller... attends, excuse-moi. Vraiment avec mes goûts, puis pas pour essayer de me la péter par mes connaissances cinématographiques. Regarde, moi, Godfather, j'ai aimé ça. OK, Le Parrain, avec Marlon Brando, Al Pacino, bon. J'ai beaucoup aimé ça, mais pas tant que Goodfellas. Goodfellas, j'ai adoré ce film-là. C'est mon film de mafia préféré à vie. Puis c'est un milieu, on le sait, folklorique. Il y a bien du jus là-dedans, il y a bien des histoires. C'est un milieu qui est fait pour faire des films, en fait, tu sais. Puis, moi, ce film-là, je te le recommande fortement. Je l'ai mis quatrième, j'ai hésité à le mettre dans mon top 3, je te dirais. Donc, c'est ça, pour revenir à Godfather, le parrain de Brando, puis bon. Oui, c'est un grand film, mais moi, pour moi, Godfellow est, je dirais pas meilleur, mais moi, il m'a touché beaucoup plus. OK? Par sa facture visuelle, je te dirais, par la narration aussi que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Peut-être ce que j'aimais moins de Godfather, c'est peut-être la vitesse, la lenteur du film, OK? Qui était très, 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 très lent. Puis qui était beaucoup... je cherche le mot, là, présentement, là, mais qui était... C'était très solennel, Godfather. Puis moi, ça représente pas ça représente pas les réalités. Tandis que Godfellow, c'était beaucoup plus. On était beaucoup plus dans le réalisme, là, tu sais. Ceci étant dit, je ne m'astinerai pas avec ceux qui disent que Godfather, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Je peux pas m'astiner, mais c'est une question de goût aussi à un moment donné. Donc, ce qui explique mon choix de mettre. Godfellow quatrième. Et puis là-dedans, Ray Liotta, qui est un comédien sous-estimé à mon humble avis, l'acteur principal, là, il est très bon, il est solide. Joe Pesci, comme d'habitude, Robert De Niro, ben j'ai pas besoin de rajouter sur Robert De Niro. C'était mon numéro 4. Mon numéro 3, j'ai parlé tantôt du Feel Good Movie, des Feel Good Movie avec Forrest Gump. Ben, celui-là rentre direct dans cette catégorie-là. C'est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui est sorti en 2001, qui met en vedette la magnifique Audrey Tautou, qui dure 129 minutes, qui est une comédie romantique. Qui est produit par la France et l'Allemagne. C'est une réalisation de Jean-Pierre Jeunet. Scénario Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurent. Le fit est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris, dans le quartier Montmartre. Puis aussi, c'est le film qui a connu le plus gros succès commercial mondial pour un film français, qui a reçu pas mal de... qui a reçu un paquet de récompenses, dont 13 Césars et 5 Oscars. J'aime beaucoup Amélie Poulain. J'aime beaucoup le... J'ai beaucoup ri dans ce film-là. J'ai eu larmes à l'œil. J'ai réfléchi. Le film commence le 3 septembre 73. Ça, c'est quand... C'est quand Amélie Poulain est créée par ses parents. Ça commence là. Puis là, un enchaînement de toutes sortes de choses qui arrivent que je vous dirai pas pour pas le spoiler. Mais bref, ça avait sorti France, Belgique, Suisse le 25 avril 2001. Puis nous, c'est sorti le 7 septembre 2001, tu vois. Ça faisait quand même 6 mois qu'il était... Bon, il y a des clichés français là-dedans, là, de Paris, de Montmartre, comme je te disais au préalable. J'ai beaucoup aimé le jeu d'Audrey Tautou. J'ai beaucoup aimé dans ce film-là le sarcasme. J'aimais les jeux de caméra aussi, très très intéressants. Je trouvais intrusif, intrusif. Je sais pas comment dire ça. Je suis pas un caméraman, là, je suis pas un technicien, mais les plans, les shots là de vraiment près du visage, je trouvais ça bien bien intéressant. Les jeux d'acteurs, tous les acteurs dans ce film-là, c'est ben, ça prend des acteurs exceptionnels pour jouer ce genre de film-là. L'écriture était bonne aussi. L'écriture était subtile, intelligente. Il y avait de l'humour noir en masse. Moi, j'étais un fan d'humour noir fini. On en avait beaucoup dans ce film-là. C'était vraiment drôle. Quand on se met à jouer des drôles de tours, là, moi j'ai bien bien aimé ça. Puis tout le long du film, j'avais un petit sourire. Puis la bande sonore. La bande sonore du film est splendide. Moi, c'est une bande sonore qui me suit encore aujourd'hui. J'aime beaucoup mettre ça en trame de fond. Comme je te dis, j'avais un sourire là, fendu jusqu'aux oreilles quand j'écoutais ce film-là. Je trouvais ça beau, puis je trouvais Audrey Tautou belle, belle comme magnifique, comme splendide dans ce film-là. Je sais pas comment dire ça, c'est rien de sexuel, là. C'est une beauté comme un rêve, comme dans l'imagination, comme je sais pas comment dire ça, comme un bibelot de cristal, comme je sais pas. Je suis pas capable de bien synthétiser ma pensée là, en ce moment-là. Bref, était magnifique dans ce film-là. Puis, je le conseille fortement. Puis en ces temps de pandémie, là, dans tous ceux que je t'ai parlé à date, là, je te conseille fortement les Feel Good Movies. Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Si tu files pas un soir, tu mets ce film-là, là, donne la chance, c'est un film français. Tu vas adorer Forrest Gump, évidemment. Puis mon 10e, Les Enfants du Marais. Tu vas complètement tomber sous le charme. Puis pour moi, c'est important de mettre des films français, moi, qui m'ont beaucoup influencé dans mon imaginatif puis dans ma façon d'écrire, même si ça paraît pas toujours... Ça paraît pas dans comment j'écris, mais beaucoup de films français m'ont influencé. J'étais un amateur de films français, j'aime bien ça. Donc, c'était mon numéro... Wow, imaginez-vous donc. Là, on est déjà rendu au numéro 2. Numéro 2. S'intitule de Shawshank Redemption, à l'ombre de Shawshank. Et puis imaginez-vous donc en France, on appelait ça les évadés. J'aime pas ce titre-là. Le film est sorti en 1994, met en vedette, évidemment, l'excellent Tim Robbins et Morgan Freeman. Que dire de Morgan Freeman? My God. C'est un drame, 142 minutes de pur bonheur, réalisé par Frank Darabont, scénarisé par Frank Darabont, d'après la nouvelle de Rita Hayworth. La nouvelle de N. Ah, ça serait une nouvelle, ça. Imagine-toi donc. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre en faisant lecture. C'est une nouvelle de Stephen King, Shawshank Redemption. Wow! Incroyable. Ce gars-là, il n'y aura jamais. Cet auteur-là, le King, là, plus grand auteur de l'histoire des Américains, il n'y aura jamais fini de me surprendre. Ouais, fait que ce serait une nouvelle de. Moi qui aime tellement, tu le sais, moi qui aime tellement écrire des nouvelles littéraires. Ah ouais, c'est de lui ça? Wow, ok. Ben en fait, c'est l'histoire de deux détenus, tu sais. Un homme injustement condamné pour le meurtre de sa femme et de l'amant de celle-ci va passer près de 20 ans au pénitencier de Shawshank, qui n'est pas un pénitencier facile, endurant diverses épreuves, mais se liant également d'amitié avec Red, qui est Morgan Freeman, un autre détenu. À qui le statut... Ouais, on dit qu'il a qui le statut de film culte. Ben, évidemment, puis qu'il est dans l'American Film Institute, il est dans les 100 meilleurs films de tous les temps. Puis que, ben, je peux pas... puis les meilleurs films de Internet Movie Database. Fait que je peux pas dire le contraire. Je vais le mettre deuxième dans mes films préférés, t'sais. La narration est bonne. Encore là, tu sais, il y a du narratif. Puis moi, j'aime bien le narratif. C'est bien ficelé, c'est bien écrit. En quelque sorte, même s'il y a des moments très, très durs dans le film, moi, je... Non, je dirais pas feel good movie, puis je peux pas te spoiler tout ce qui se passe à la fin. Là, il y a des choses vraiment tristes, mais d'un réalisme fou. Le jeu d'acteur de Tim Robbins là-dedans est tout simplement magnifique, merveilleux. Il avait joué aussi avec Kevin Costner puis Susan Sarandon dans Bull Durham, qui faisait un lanceur qui était exceptionnel là-dedans aussi. J'aime beaucoup Tim Robbins. Puis Morgan Freeman, bien évidemment que Morgan Freeman, c'est un naturel. C'est un grand monsieur là. Puis par sa façon de faire les choses, il est exceptionnel. Beaucoup de choses à dire sur ce film-là, mais je veux pas trop en dire pour le spoiler. Tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas réfléchir. Encore là, c'est les trois choses bien importantes. Je me rends compte dans tous les grands films, là, puis dans tous les films que j'ai mis. Ici, c'est des films qui font ça pour la plupart, tu sais. Qui font rire, pleurer, réfléchir. Puis moi, c'est ça que j'aime faire dans mes textes aussi, que j'essaie de faire humblement. J'y arrive pas toujours, mais j'aime bien ça faire ça, tu sais. Pour moi, c'est comme vraiment important. Donc, puis je te dirais, de tous les films que je t'ai parlé aujourd'hui, s'il y en a un là-dedans que tu n'as pas vu puis qui est à voir absolument, c'est clair que c'est Shawshank Redemption. Puis c'est le seul dans toute la gang que je vais te garantir que tu vas aimer. Parce que les autres, ben il y a des fois... Shawshank Redemption fait c'est unanime auprès des critiques et et du public. Celui-là, si tu ne l'as pas vu, tu dois le voir. C'est un must-see, c'est clair, net et précis. Maintenant, on va sauter à tout seigneur, tout honneur, au numéro 1 de ma liste des incontournables du 7e art. Quand je pensais à mon numéro 1, ce film-là m'est venu tout de suite en tête. J'avais jamais pensé à ça. C'est quel mon film préféré à vie, tu sais? Mais quand j'ai pensé à mon numéro 1, j'ai pensé tout de suite à ce film-là. Je parle évidemment de A Clockwork Orange, la version française d'Orange Mécanique, réalisé de main de maître par le maître lui-même, Stanley Kubrick, scénarisé par Stanley Kubrick d'après le roman éponyme d'Anthony Burgess, un roman qui est paru A Clockwork Orange, dans son édition originale, en 1962, imagine-toi donc. Les acteurs, ben, je peux bien te les nommer, là, mais on les connaît pas, ou presque pas. Le film est sorti en 71. On dit que c'est un conte dramatique. J'aime bien ça, cette idée-là. 136 minutes. Production américaine et des Royaumes-Unis aussi. Le film est une étude sociale, une étude sociologique. Puis c'est un peu comme si le réalisateur, en tout cas c'est du grand Stanley Kubrick. Le film, dans sa façon d'être et de faire, ça a bien vieilli. Là. Ça reste... ça frôle le génie par sa façon, par la vision du film aussi, l'ultra-violence. Clair que Quentin Tarantino était... c'est une des inspirations majeures de Quentin Tarantino, c'est clair. Ce film-là nous amène... c'est malaisant de regarder ce film-là. C'est déstabilisant. Moi, j'ai tout aimé de ce film-là. Les dialogues sont incroyables. Les images aussi. Peut-être parce que ça a été fait en 71, mais la texture, là, moi, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'adore la texture de ce film-là. La musique dans le film est incroyable aussi, et bien choisie, mais ça, c'est Kubrick. Kubrick, regarde. Moi, j'ai deux films de Kubrick dans ma liste, puis je suis bien content de ça. C'est peut-être mon réalisateur préféré. Le gars, c'est tout simplement un génie. Si peut-être qu'on élimine son dernier film qu'il a fait avant de mourir, qui s'appelle Eyes Wide Shut, ben, il faudrait que je le revoie, là, tu sais. Mais à part ça, là, c'est juste du grand cinéma. Les acteurs là-dedans, dont Malcolm McDowell, les gars sont incroyables, les actrices aussi. Puis comme c'est une étude de société, c'était beaucoup précurseur de ce qui s'en venait dans notre société, tu sais, l'ultra-violence. Donc, on... il faisait beaucoup référence au conditionnement psychologique. Ça, c'était bien intéressant aussi. À travers ça, on parlait de lobotomie, tu sais, qui existe depuis bien des années, tu sais. C'est sûr que le film a une importance culturelle, a une importance historique, puis une importance dans son esthétisme. Puis, je te dirais pas ça souvent, moi, là, mais là, dans ce film-là, ça prend toute sa valeur. C'est beau, c'est... Je te dirais même que c'est beau, on s'entend, là, mais... C'est poétique. C'est rempli de poésie, ce film-là. Puis je pense que c'est ça qui vient beaucoup me chercher aussi. Est-ce que je te le conseille? Bon. Alors, regarde, écoute bien. Moi, c'est mon numéro 1, mais je le conseillerais pas à tout le monde. Regarde, si tu es le genre de personne qui aime les blockbuster movies, c'est sûr que tu n'aimeras pas ça, là. Mais si tu es quelqu'un qui aime un peu ce qui se fait d'alternatif, d'indie, ce qui est à gauche, à côté de la traque, qui est sale un peu, tu vas apprécier ce film-là. Si ton minding... C'est beaucoup le minding des punks aussi. C'est très, ce film-là est punk. Punk avant le punk, tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est intéressant aussi, ce fait-là. L'anarchisme, tout ça. C'est bien, bien intéressant. Donc, si tu as ce petit côté-là en toi, tu vas apprécier ce film-là. Mais c'est sûr que si t'es un fan de blockbuster, oublie ça. Puis c'est pas pour me mettre au-dessus de la masse que je te dis ça. C'est juste que je connais ce film-là et je sais ce que je pense que c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas pour tous les publics. Là. C'est pas comme Shawshank Redemption, exemple. Là. Mais donc, c'était mon top 10 dans mes films préférés, mes incontournables du 7e art. J'espère que tu as apprécié. Et envoie-moi tes appréciations par courriel. au barbudeville@gmail.com. Et n'oublie pas qu'il est toujours temps de s'abonner à mon Patreon si tu veux avoir des textes de mon livre qui sont exclusifs au Patreon, puis qui sortiront jamais avant, qui sortiront jamais. Le jour qu'ils vont sortir, ils vont être dans mon livre, mais je les donne à mes Patreons. Et puis, mes jasettes, puis tous mes autres textes sont... ils sortent avant sur mon Patreon. Donc, tu as plein de choses, tu as plein de matériel à lire et à écouter sur le Patreon. Puis, tout ça, ben, est à partir de 2$ seulement par mois. Fait que c'est pas grand-chose quand tu y penses. Pour 24$ par année, là, tu as pas mal de stock. Fait que je t'invite à t'abonner à mon Patreon. Ou sinon, quand tu le peux, partage mes textes, partage mes jasettes. Puis moi, c'est une belle façon de m'aider aussi. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée.